Vous écoutez
RMC.
Vous êtes bien sur RMC. Très bon réveil à tous. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. C'est un lapin diplomatique. L'ambassadeur américain a séché la convocation du Quai d'Orsay hier soir. Le ministère réagit et sanctionne ce matin. Poignardé à 15 ans à la sortie de son lycée, un adolescent est entre la vie et la mort près de Lyon. Et puis le coupé vérifié pour lutter contre la fraude. Un projet de loi examiné à l'Assemblée aujourd'hui propose de suspendre les prestations sociales en cas de suspicion.
Le Quai d'Orsay hausse le ton de contre l'ambassadeur américain en France.
Qui ne s'est tout simplement pas déplacé hier soir à sa convocation au ministère des Affaires étrangères. Convocation pour un commentaire sur la mort du militant identitaire Quentin Derenck à Lyon. La diplomatie française y voyait une ingérence. C'est la deuxième fois que Charles Kushner snob ainsi le gouvernement. Et cette fois, il y a sanction, Sonia Gobry.
Oui, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, demande à ce que Charles Kushner ne puisse plus accéder directement aux membres du gouvernement français. On parle au Quai d'Orsay d'une apparente incompréhension des attendus élémentaires de la mission d'ambassadeur. Mais Paris ne rompt pas non plus tous les canaux de communication. Une source diplomatique assure qu'il peut, bien sûr, continuer à exercer sa mission en France. Les portes du Quai d'Orsay restent ouvertes s'il s'agit, je cite, d'aplanir les irritants. Toujours pour arrondir les angles, cette source ajoute qu'inévitablement, des tensions peuvent survenir dans une relation d'amitié vieille de 250 ans.
Et toujours sur l'affaire Quentin Derenck, après les saluts nazis et les insultes racistes entendues pendant la marche hommage de samedi, deux enquêtes ont été ouvertes hier, notamment pour apologie de crimes contre l'humanité. Notez aussi qu'Emmanuel Macron convoque une réunion ce matin sur les groupes violents. Les autorités ont d'ores et déjà lancé une procédure de dissolution contre deux d'entre eux d'ultra-droite.
Un adolescent de 15 ans est toujours entre la vie et la mort ce matin.
Grièvement blessé au couteau hier après-midi à la sortie de son lycée à Bron, à côté de Lyon, l'agresseur est en fuite. Constance Bostoen, une enquête pour meurtre est ouverte.
Oui, les faits ont eu lieu en plein après-midi, à quelques mètres seulement du lycée professionnel Émile Béjuy à Bron, dans la banlieue lyonnaise. Il est 15h40 quand les secours sont appelés. Un élève de seconde, âgé de 15 ans, vient d'être poignardé. Il est alors transporté en urgence absolue à l'hôpital. Pour préciser le contexte de cette agression et surtout identifier l'auteur du coup de couteau, une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre, selon le parquet de Lyon. Ce matin, la police sera présente aux abords de l'établissement. La préfecture du Rhône précise également qu'une cellule d'écoute et un accompagnement psychologique vont être proposés.
Constance Bostoen du service police-justice de RMC, une enquête qui est bien donc ouverte pour tentative de meurtre. Un gendarme a été blessé hier à Castelnau de Médoc en Gironde, percuté et projeté sur plusieurs mètres par un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer, précise le ministre de l'Intérieur, qui précise également que les jours de la victime ne sont pas en danger. En pleine crue, dans l'Ouest, le gouvernement et les collectivités s'écharpent sur la question des digues. Ça fait 2 ans que c'est aux collectivités de mettre en place une taxe pour les entretenir. La ministre de l'Aménagement du Territoire disait hier vouloir réévaluer cette taxe, sa collègue de la transition écologique estimant que certains maires ne l'utilisaient pas assez. Tollé chez les élus, bien entendu, mais au-delà de la politique, il y a un constat. Beaucoup de digues ont fui dès les premières crues ces dernières semaines. C'est le cas pour deux d'entre elles dans le Maine-et-Loire, reportage RMC de Martin Lange.
Il y a 10 jours, la digue de Saint-Jean-de-la-Croix, qu'on appelle ici la levée, a laissé apparaître des fuites. Jean-Luc était aux premières loges.
C'est moi qui ai fait constater que la Loire passait sous la levée.
Résultat, un ordre d'évacuation pour les 900 habitants. Si depuis des travaux ont été entrepris, Jean-Luc déplore un manque d'entretien.
Tous les ans, je prends ma pelle et je bouche les trous du côté de la levée. Les agriculteurs qui étaient là à l'origine, la levée, ils la protégeaient. Et aujourd'hui, tout le monde a les mains dans les poches. Aucun travaux n'est fait.
20 km plus à l'ouest, à Saint-Georges-sur-Loire, la digue a été fermée ce week-end, là aussi à cause de fuites. Mathieu habite sur celle-ci.
On est inquiet forcément. Les arbres, ils ont leurs racines qui se mettent dedans, les animaux, ils creusent leur terrier. Et il faut qu'elles soient mieux surveillées et mieux réparées. Il y a trop de biens et de gens en jeu derrière cette digue.
Depuis 2018, ce sont les intercommunalités qui doivent entretenir les digues. À Saint-Georges, des travaux sont d'ailleurs prévus dès cette année, mais cela a un coût. Marc Schmitter, président de la communauté de communes Loire-Layon-Aubance.
On parle en millions d'euros d'investissement. Donc effectivement, quand on a récupéré cette compétence, on était très inquiets.
Pour financer ces travaux, les intercommunalités peuvent appliquer une nouvelle taxe à leurs administrés, la taxe Gemapi. Instaurée l'an dernier à Saint-Georges et dans les communes environnantes, elle a permis de récolter 700 000 euros.
Le Maine-et-Loire qui, comme la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime, sont toujours en vigilance rouge crue aujourd'hui. Je vous signale également que la tempête Nils a fait un troisième mort hier. Un homme a succombé à ses blessures 9 jours après avoir été écrasé par un arbre dans sa voiture. Dernière ligne droite pour la loi fin de vie. Le vote solennel est prévu, sauf retard, ce soir à l'Assemblée nationale. Hier, les députés ont voté pour pouvoir déléguer l'acte de l'aide à mourir aux soignants. Autre dossier débattu dans l'hémicycle aujourd'hui, le projet de loi contre la fraude sociale et fiscale. Objectif, 2 milliards d'euros d'économies par an, mais des mesures qui divisent. Dans une version durcie par les sénateurs, le texte prévoit notamment de pouvoir suspendre les prestations sociales en cas de suspicion de fraude. Sébastien Krebs.
Oui, et le gouvernement y est favorable, suspendre le versement des allocations le temps de l'enquête lorsqu'il y a une suspicion sérieuse de fraude et des éléments probants. Avec ce texte, les administrations vont mieux partager leurs informations entre elles pour recouper, permettre par exemple à France Travail de détecter lorsqu'un chômeur perçoit ses indemnités alors qu'il réside à l'étranger, ou encore pour vérifier si des pensions de retraite ne sont pas versées à quelqu'un qui serait décédé. Les mesures ciblent aussi les entreprises pour sanctionner plus rapidement, notamment en cas de travail au noir, avec des saisies, des fermetures administratives, permettre de bloquer immédiatement les comptes de l'entreprise pour éviter qu'elles disparaissent et ainsi mieux récupérer les sommes colossales qui échappent aux caisses de l'État. 20 milliards d'euros estimés en 2024. Le gouvernement espère en récupérer 2 grâce à ces nouvelles mesures.
Sébastien Krepp, chef du service politique de RMC. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vient d'arriver en Ukraine avec le président du Conseil européen. Elle doit se rendre à une cérémonie de commémoration 4 ans, jour pour jour, après le début de la guerre contre la Russie. Le sport, à présent, et quelque part, les Jeux olympiques d'hiver sont déjà de retour, à peine ceux de Milan terminés. Une grande cérémonie de passation hier, une grande fête à Albertville, une ville haute en 1992, et ce pour donner le cap vers Alpes 2030, Edouard G.
Oui, comme un symbole, Régis assiste au grand retour de la flamme olympique dans sa tenue officielle portée il y a 34 ans en tant que volontaire.
On est très ému que les Jeux reviennent après Albertville, reviennent dans les Alpes 2030. Formidable. Que les gens aient de l'enthousiasme, c'est magnifique.
Un enthousiasme que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pancook, entend prolonger maintenant que tout commence dans les Alpes françaises.
Revenir ici aujourd'hui, de considérer que maintenant la trajectoire est devant nous, évidemment que cette symbolique, elle est très très importante.
Cette image rayonnante, une marque déposée par une discipline, le biathlon, avec sa chef de file, Julia Simon.
Ouais, la portée, on commence à s'en rendre compte. En fait, on était dans notre cocon en Italie, on se rendait pas trop compte des choses. C'est vraiment génial de pouvoir faire partie de cette équipe-là, de voir l'engouement que le biathlon apporte auprès des jeunes, et j'espère que ça durera encore très longtemps.
Un quatrième passage des Jeux en France dans 1400 jours, désormais avec comme objectif celui de battre le record de Milan Cortina et ses 23 médailles décrochées par la délégation tricolore, saluée hier soir par une Marseillaise entonnée par les 6500 spectateurs présents à Albertville.
Et puis un mot de football, c'est le retour de la Ligue des Champions ce soir. Les barrages retour avec d'abord à 18h45 Atlético Madrid, Club Bruges. Et puis à 21h, 3 matchs, Newcastle-Karabakh, Inter Milan-Bodo Glimt et Bayer Leverkusen Olympiakos. Ce sera à suivre évidemment sur RMC.
C'était le journal de Victor Pourchet, il est 7h08 sur RMC. Et vous êtes nombreux à réagir à cette information, l'augmentation de la consommation de drogue partout en France et chez tous les Français, avec en particulier notamment l'ecstasy et la MDMA. Bonjour Chris. Chris, vous nous appelez au 32-16 depuis les Landes. Vous êtes au volant là, Chris, soyez prudent.
Mais ça va, je suis sur mes petits chemins, tranquille.
Bon, tranquille. Chris, vous en avez beaucoup consommé, vous, de la drogue ?
Ouais, j'en ai eu consommé quelques fois. Il n'y a pas que la cocaïne, faut arrêter de généraliser sur la cocaïne. Il n'y a pas que ça qui tourne, c'est divers et varié, en fait. Moi, j'étais plus cocaïne, un petit peu d'LSD, puis un petit peu d'MDMA de temps en temps en soirée. Bon voilà, après dans le sud-ouest, faut savoir une chose, c'est que c'est monnaie courante, ça pullule, c'est pas nouveau en fait, hein, ça part du consommateur de juste majeur au consommateur de 70 balais quoi, c'est pas quelque chose en fait chez nous qui est vraiment catégorisé.
Pourquoi
sur une tranche d'âge.
Pourquoi
en fait,
parce que vous êtes à côté de l'Espagne,
L'Espagne, donc au final aujourd'hui nous aller chercher de la cocaïne en France sur Biarritz, admettons. Hein. Mm-hmm. Je veux dire, je dis Biarritz, pourquoi Biarritz ? Parce que tout ce qui concerne Biarritz, Hossegor, tout ce secteur sud-land, en fait, est voué à la fête. Hein. Je veux dire, nous, après, on est natifs, nous, natifs de la côte, on a toujours
pour
connu
vous,
ça.
Pour vous, c'était associé... Alors, j'en parle au passé, parce que Chris, vous venez de dire que vous étiez plutôt un ancien consommateur.
Ah, moi, je suis complètement ancien consommateur. J'ai mis ça de côté dans ma vie, largement, et en long et en large, et en travers.
Qu'est-ce qui faisait que vous aviez basculé dedans, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous en êtes sorti?
Les rencontres, les connaissances, les gens, c'est plus de l'expérience au final qui s'est accrue sur du long terme. Au final, nous chez nous, c'est tout le monde qui en prend. Hein, donc,
c'est quoi? C'est en soirée? C'est en soirée? C'est quand vous êtes avec les copains?
En soirée, complètement. Ben en soirée, beaucoup en soirée. Hein. Il y a des patrons qui en font même la pub. Il y a des, je vais pas citer de nom parce que ça serait
des
pas
patrons
correct,
dans les bars, dans les boîtes.
Mais complètement, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les restaurants, il y a des employés, des saisonniers qui auraient le courage de témoigner aujourd'hui et qui diraient bien sûr que sur Biarritz, il y a des patrons qui en font la promotion.
Est-ce qu'aujourd'hui vous le regrettez, Chris, ou est-ce que juste vous êtes passé à autre chose?
Non, je le regrette pas forcément. Je le regrette pas. Pourquoi? Parce que c'était une expérience. Ça m'a forgé dans le temps à me dire qu'en fait c'est nul. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Aujourd'hui, vous allez dans une soirée quelconque, techno ou autre, sur la côte. En début de soirée, vous avez des personnes. À la fin de la soirée, vous avez que des zombies. C'est nul. C'est vraiment nul. Et au niveau des, en fait, ça touche les hommes. Les hommes poussés à l'adrénaline complète, avec le comportement déjà de global du Sud-Ouest qui est assez chaud, se comporte d'une manière avec les femmes qui est complètement mais atroce. Ouais. Vous avez juste à voir, nous chez nous, les fêtes de Bayonne, on les faisait quand on était gamin, ça avait quelque chose de symbolique, quelque chose qui était beau. Aujourd'hui, vous faites les fêtes de Bayonne, vous allez trouver à 2h du matin plus de cocaïne que vous allez trouver de la bière. Ouais. Les gens vont faire moins la queue pour aller chercher la cocaïne que pour aller chercher des bières.
Votre témoignage, il est vraiment très utile. Merci beaucoup d'avoir partagé. Chris, soyez prudent au volant. Merci en tout cas d'avoir appelé et de nous avoir dit à la fois comment vous étiez rentré dedans et puis le regard que vous portez aujourd'hui. Il est 7h12 sur RMC. Cette question, au 1er mars, si vous passez par la case hôpital, eh bien, ça vous coûtera plus cher. Désormais, le forfait journalier va augmenter, la part remboursée par la Sécu va diminuer. Le gouvernement dit qu'il cherche 400 millions d'euros. Bonjour Dominique Corona. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'UNSA, du syndicat UNSA. Votre parti pris ce matin, c'est que, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ce sont les plus fragiles qui vont encore payer la facture. Vous nous le dites dans un instant, 7h13.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h16 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Le gouvernement dit qu'il faut trouver 400 millions d'euros pour la Sécu. Bonjour Dominique Corona, vous êtes le secrétaire général adjoint de l'UNSA, le syndicat, et ces 400 millions donc, le gouvernement, il voudrait aller les chercher dans les poches des patients. Divers forfaits hospitaliers vont augmenter le 1er mars, c'était pas tout à fait prévu. Et votre parti pris, c'est que ce sont les plus fragiles qui vont en souffrir. D'abord, Dominique Corona, de quel forfait on parle et de combien ça va augmenter ?
Alors, on va parler du forfait urgence qui a été créé, lui, en 2022, qui va passer de 19,61 € à 23 €, pardon. Et le forfait hospitalier qui, lui, effectivement, va passer à 23 €.
En psychiatrie, c'est de 15 à 17 €. Oui. Bref, c'est 3-4 € un peu partout sur chacun de ces forfaits. Oui. Jusqu'à présent, c'était pris en charge par la Sécu. Là, c'est quoi ? C'est la mutuelle ?
C'était pris en charge par la mutuelle, sauf que pour ça, il faut avoir une mutuelle. Et le problème, c'est bien là que le bât blesse, entre guillemets, madame de Malherbe, c'est que quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas de mutuelle. Aujourd'hui, vous avez déjà près de 2,5 millions de personnes qui n'ont pas de mutuelle. Et quand vous prenez les personnes les plus faibles, on est à 12% de la population des plus précaires qui n'ont pas de mutuelle. Ça veut dire que quand vous êtes précaire, vous allez à l'hôpital, vous devez payer vous-même ces forfaits. C'est impossible. C'est-à-dire que déjà, vous êtes en rupture de soins. En général, ce sont des gens qui sont extrêmement précaires, qui n'ont pas de médecin traitant, donc qui n'ont que l'hôpital pour se faire soigner. Et on va leur dire, eh bien, vous allez payer le forfait urgence et le forfait hôpital. C'est pas acceptable. Il y avait d'autres solutions.
Il y avait d'autres solutions, lesquelles ?
Ah ben, je vais vous en donner une. Hein. 71 milliards d'euros d'exonération de cotisations pour toutes les entreprises. Pas de conditions. ni sociale, ni environnementale. Très franchement, il y a des entreprises qu'on n'a pas besoin d'aider en France. Hein. Il y a des entreprises, par contre, on devrait aider beaucoup plus. 71 milliards d'euros, 72 milliards d'euros par an, c'est plus que le budget de l'armée. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Donc vous imaginez bien que il n'y a pas d'argent magique. C'est le MEDEF qui le dit. Ils ont bien raison. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on aille regarder de ce côté-là.
Pour vous, clairement, il y a des patients qui vont finir par renoncer à se soigner.
Oui. Oui. Et vous c'est pour ça que je pousse un coup de gueule. Nous poussons à l'UNSA un coup de gueule. Parce que oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, et c'est pas moi qui le dis, l'adresse, qui est les statistiques d'études du ministère de la Santé, a sorti une étude la semaine dernière pour indiquer que quand il y avait des remboursements, ça pesait deux fois plus sur le budget des plus précaires. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Santé. Et la réponse du ministère de la Santé, c'est justement d'augmenter les déremboursements ou d'augmenter les forfaits pour les plus précaires. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Et ça aussi, c'est un problème politique. On ne peut pas d'un côté sortir une étude qui dit ça, qui est chiffrée, et de l'autre côté dire, ah ben, la réponse, finalement, je vais accentuer ça. Et là, il y a un problème politique quand même.
Il y a un problème politique, c'est un choix politique. D'ailleurs, ces 400 millions, en réalité, il n'y a pas eu tellement de débat à l'Assemblée nationale dessus. On a tellement parlé d'autres économies ou hausse des recettes que finalement, c'est passé un tout petit peu à la trappe.
Ah ben
est-ce que vous avez même l'impression qu'au fond, ils ne voulaient pas en parler et puis là, on se retrouve devant le fait accompli?
Ah ben écoutez, oui, exactement, parce que dans le projet de loi de finances et de sécurité sociale, nous n'en avons pas entendu parler. Et là, c'est un décret. Donc un décret, en plus, ça passe sous le radar de la représentation nationale.
Ça n'a pas été débattu politiquement.
Débattu ni politiquement, ni même avec nous. Donc moi, je vous le dis, je pense que cette mesure doit être retirée immédiatement parce qu'il y a d'autres solutions. Et donc, on ne peut pas accepter que les plus faibles sont ceux qui vont encore le plus morfler.
Vous demandez le retrait de ce décret, de cette mesure. La conséquence, parallèlement, c'est que les mutuelles vont encore augmenter, alors que c'est un peu le vase communicant entre la Sécu et la mutuelle. Vous nous dites qu'il y a déjà un grand nombre de Français qui ont besoin de mutuelles, qui n'en ont pas aujourd'hui. Ça ne va être que pire.
Et puis, de notre côté, on parle beaucoup du coût du travail en France. Les mutuelles sont payées pour partie par les employeurs. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, le coût du travail va aussi s'y renchérir. Donc, c'est perdant sur toute la ligne, cette histoire. C'est perdant sur toute la ligne. C'est perdant pour le pouvoir d'achat des Français. C'est perdant pour, effectivement, le coût du travail. Et c'est perdant aussi pour les plus précaires. Moralité, ce n'est pas une bonne solution. Je vous dis, d'autres solutions existent. Et donc, il faut y aller, mais il faut avoir un peu de courage politique.
Merci beaucoup Dominique Corona d'avoir défendu votre parti pris ce matin. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UNSA. Il est 7h21 sur RMC. On va remonter le temps parce que l'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, le Mexique est à feu et à sang sur fond de guerre entre l'État et l'un des cartels de la drogue les plus puissants du monde.
Oui, les cartels surpuissants. Tout ça a commencé il y a 50 ans avec une Colombienne, la reine de la coca, et elle envoyait de la cocaïne dans des soutiens-gorges, figurez-vous. C'est elle qui a tout appris à Pablo Escobar.
Vous nous le racontez dans un instant, ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On remonte le temps, comme chaque matin, avec Arthur Chevalier. Arthur, la France appelle ses ressortissants au Mexique à la plus grande prudence et à rester confinés. Depuis l'élimination d'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde, Nemesio Oseguera, dit El Mancho, le pays est traversé par des affrontements extrêmement violents.
Oui, entre d'un côté le CJNG, le cartel Jalisco Nouvelle Génération, c'était le cartel dirigé par le fameux El Mancho, et de l'autre, les forces gouvernementales mexicaines qui essayent tant bien que mal de rétablir leur autorité. Et si c'est aussi violent, eh bien c'est parce que le CJNG dispose en fait de moyens considérable, hein, notamment d'une armée privée suréquipée, surpuissante, qui a même des canons. Hein. C'est un véritable État dans l'État.
Depuis quand les barons de la drogue sont en capacité de défier carrément des États, en fait?
Alors en fait, ça a commencé dans les années 70. Hein, et la première à avoir professionnalisé le trafic de stupéfiants à grande échelle en Amérique du Sud, c'est une femme colombienne. Son nom, c'est Griselda Blanco. On l'a surnommée d'ailleurs la reine de la coca, hein, ça fait très peur. Une référence à sa spécialité, le trafic de cocaïne. Dans les années 70, elle industrialise son business en exportant des tonnes de coke vers les États-Unis, notamment vers la ville de Miami.
Elle avait des méthodes révolutionnaires.
Oui, des méthodes révolutionnaires qui concernaient les gaines et les soutiens-gorges. Je m'explique, pour transporter de la drogue, la reine de la coca avait donc des passeuses, hein, ce qu'on appelle des mules dans le vocabulaire des trafiquants. Et ces mules, elle va les équiper de soutiens-gorges et de gaines avec des poches spéciales dans la doublure du tissu. Et là-dedans, on planquait de la cocaïne. En cas de contrôle, évidemment, c'était ni vu ni connu. Et la reine de la coca ne manquait pas non plus d'humour, puisqu'elle avait appelé un de ses fils Michael Corleone, du nom du héros du film Le Parrain, qui est joué par Al Pacino.
Très assumé. Donc voilà. Cette femme, elle a aussi été le mentor d'un autre grand parrain de la mafia.
Et oui, puisque c'est elle qui a formé Pablo Escobar, hein, la légende du trafic de drogue, lui aussi colombien. Son truc, c'est d'abord le trafic de cocaïne, il va ensuite se diversifier. Braquage, kidnapping, corruption. Et Escobar devient le criminel le plus riche de tous les temps. À la fin des années 80, sa fortune est estimée à 30 milliards de dollars. À son plus haut niveau, le cartel de Pablo Escobar, le cartel de Medellin, exportait 80% de la cocaïne mondiale, avec 15 tonnes par jour juste pour les États-Unis. Et tous les moyens étaient permis, hein, puisque figurez-vous qu'Escobar avait même un sous-marin pour expédier sa drogue. Bref, une toute-puissance qui finira par s'arrêter, hein. En 1993, il est abattu par la police colombienne.
Depuis, il y a eu donc le mythique El Chapo.
Et oui, Joaquin Guzman, de son vrai nom El Chapo, ça veut dire petit en espagnol. Il faisait 1m68, mais ça ne l'a pas empêché de faire régner la terreur au Mexique, à la tête du cartel de Sinaloa. Et à part le trafic de drogue, la spécialité d'El Chapo, c'était l'évasion. Puisqu'en fait, il arrivait toujours à s'échapper de prison. Alors le plus bluffant, c'était en 2015, alors que sa cellule était surprotégée avec des caméras de surveillance partout, des gardiens partout. Eh bien, il se fait la malle. Comment ? Il y avait un tunnel en dessous de sa cabine de douche qui reliait directement sa cellule à l'extérieur de la prison. Ça avait bluffé tout le monde. Finalement, il est rattrapé en 2016 avant d'être condamné à la perpétuité en 2019.
Merci Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Si vous voulez réécouter Arthur à tout moment, vous le retrouvez en podcast ou sur le site rmc.fr. Et à 7h25, on vous offre vos vacances toute la semaine. Et c'est avec notre plus grand plaisir qu'on vous offre un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et les hôtels Bellembrun, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations. Mais j'ai envie de vous dire que le plus fort est à venir, puisque Bellembrun s'occupe des enfants, des activités, des repas. C'est le tout compris premium. J'avoue que ça nous fait rêver avec Mathieu. On viendrait bien avec vous. En tout cas, pour remporter ces vacances Bellembrun, vous envoyez dès maintenant vacances au 7-32-16, vacances au 7-32-16, et le gagnant sera en direct avec nous à 8h20. Bonne chance à tous.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellembra. Bellembra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Nous sur RMC, Apolline Matin, il est 7h26, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On les trouve désormais partout, les petits comprimés d'ecstasy et de MDMA. Il s'en est écoulé plus de 65 millions en France en 2023. Une explosion de la consommation. Le divorce, pas complètement consommé entre socialistes et insoumis. C'est une information RMC. Des alliances pour les municipales sont toujours d'actualité dans une trentaine de villes. Et ce, malgré les appels à la rupture après la mort du jeune identitaire Quentin Derenck. Et puis, il va faire plus de 20 degrés cet après-midi sur une large partie du pays. Un redout qui devrait remonter le moral de plus d'un après les records de pluie de ces dernières semaines.
La cocaïne est-elle en train d'être détrônée en France ?
On a beaucoup parlé de son explosion dans le pays. Les saisies ont d'ailleurs connu un record historique en 2024. Mais ce qu'on constate dans le dernier bilan annuel de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, c'est la hausse spectaculaire de la consommation d'ecstasy et de MDMA, plus 480% en 13 ans. Des drogues de moins en moins chères et de plus en plus faciles d'accès, Célestin Bougère.
Pour Martin, la consommation d'ecstasy a commencé par une soirée entre amis.
La première fois, c'était il y a 3 ans, pendant un festival de musique l'été.
Depuis, le chargé de communication de 28 ans en consomme de temps en temps, toutes les 2 semaines au plus fort de l'été, lorsque les soirées sont plus nombreuses.
Il y a un sentiment de légèreté, je trouve. On est connecté à la musique, il n'y a plus de problème.
Vous voyez que ça augmente, vous voyez dans les soirées qu'il y en a de plus en plus.
Depuis 2-3 ans, il n'y a pas une fois où on ne propose pas de l'ecstasy, quoi. Et je trouve ça extrêmement simple de s'en procurer.
Certains consommateurs comme Martin n'ont pas conscience des risques, même si les lendemains de soirée sont parfois difficiles.
Le lendemain matin, il y a un peu un côté je suis naze, et puis on se remet en question sur tout, sur sa vie perso, sentimentale, professionnelle.
À court comme à long terme, ces cachets représentent un danger pour l'addictologue Géraldine Talbot.
Des phénomènes de dépendance, on a du mal à se passer de la substance, on n'a pas l'impression qu'on passe une bonne soirée si on n'en a pas. On sait aussi qu'il y a des phénomènes d'atteinte de la mémoire, de concentration, qui peuvent aussi survenir chez les personnes qui consomment régulièrement ces substances.
En France, le chiffre d'affaires généré par la vente illicite de MDMA est estimé à 312 millions d'euros en 2023.
Il est 7h32 sur RMC, 10 jours après le lynchage à mort du jeune identitaire Quentin de Ranque, sa famille dénonce la récupération politique et les débordements au cours de la marche hommage organisée samedi. Deux enquêtes ont d'ailleurs été ouvertes, l'une pour apologie de crimes contre l'humanité, l'autre pour injures racistes et homophobes. Une affaire qui continue d'agiter la classe politique avec chaque jour de nouveaux appels à la rupture avec les insoumis proches de la jeune garde, dont plusieurs anciens militants ont été mis en examen dans ce dossier. Des appels en direction des socialistes accusés par certains macronistes d'avoir maintenu des centaines d'alliances en vue des municipales. Un chiffre qu'RMC a vérifié et qui est en réalité bien moindre, Cyprien Pézril.
Des candidats PS et LFI sur les mêmes listes, les mêmes affiches au premier tour, il y en a, oui. À Chartres, Corbeil-Essonnes, Draguignan, Niort ou encore à Maison-Laffitte. Au total, au moins une trentaine de villes concernées selon notre calcul. Et ce alors que le Parti Socialiste ne cesse de jurer qu'il prend ses distances avec la France Insoumise. Pourtant, il n'y a aucune interdiction de s'allier à l'échelon local. L'illustration d'un deux poids deux mesures, s'agace un sénateur PS. Chez moi, je soutiens un candidat LFI à visage humain, reconnaît un autre baron local socialiste. Ces listes d'union, elles sont en préparation depuis des mois, face souvent à la difficulté de trouver suffisamment de volontaires. Des liens amenés à devenir encore plus visibles au second tour dans des villes symboles, Toulouse, Amiens ou peut-être Lyon. Un proche du patron du PS l'assume, les victoires dépendront des fusions.
Lui aimait raconter ses anecdotes de prof d'anglais sur les réseaux sociaux. Monsieur le prof, alias William Lafleur, a rendez-vous avec le tribunal correctionnel de Toulouse aujourd'hui pour son procès en diffamation après la parution en 2023 de son livre « L'ex plus beau métier du monde », livre dans lequel l'ancien fonctionnaire de 37 ans dénonce les conditions de travail des enseignants et notamment le comportement d'un inspecteur, Louis Salé.
Il y a deux ans, lorsqu'il apprend qu'une plainte est déposée contre lui, William Lafleur n'en revient pas.
L'objectif de ce livre, c'était de parler de la défaillance d'un système. Mais je n'avais pas du tout l'intention de pointer du doigt cet inspecteur, de l'insulter de quelque manière que ce soit.
Dans son livre, l'ex-professeur rapporte que l'inspecteur ne lui a pas dit un seul mot positif lors de sa visite. Il n'y a eu aucun échange, juste un pilonnage à sens unique, écrit-il. Une pratique qu'il qualifie d'humiliante, d'après lui, assez courante.
Ce que je décris est terriblement banal. Donc moi, j'ai émis une critique plutôt tiède hein, de cette inspection en disant, ben voilà, c'est une inspection assez classique où qu'on va ressentir comme très infantilisante, où on va pas ressortir vraiment grandi. Et la réponse, c'est de porter plainte. Je trouve ça un peu lunaire.
L'inspecteur réclame que les passages où il s'estime diffamé et identifiable soient retirés d'éventuelles prochaines éditions. Son avocat n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.
Poutine n'a pas atteint ses objectifs, il n'a pas brisé les Ukrainiens, ce sont les mots ce matin de leur président Volodymyr Zelensky, 4 ans jour pour jour après le début de l'invasion de la Russie. Il est 7h35 sur RMC et 3 départements sont toujours en vigilance rouge au cru ce matin, 2 en orange. Mais le soleil fait son grand retour sur une large partie du pays avec une forte hausse des températures qui certes va permettre d'accélérer la sèche des villes inondées, mais qui n'est toujours pas normal pour la période. On parle de températures 6 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Mais ces jardiniers amateurs se réjouissent après des jours interminables de pluie, Amélie Courtet.
Dans son potager.
Ça, c'est des fraises.
Au milieu d'un grand jardin partagé.
Ça va commencer, ça, c'est des raisins.
Latifa, retraitée, enfile ses gants et arrache les mauvaises herbes.
Vous l'attendiez, le retour du beau temps?
Bien sûr, j'ai pris pour qu'il vienne au soleil, pour que je vienne travailler ici. Parce que j'aime bien jardiner. Je suis heureuse quand je viens ici.
Heureuse de remettre enfin les mains dans la terre après plusieurs semaines de pluie.
Des fois, on pouvait même pas rentrer dans le jardin tellement il y avait d'eau. On s'enfonçait, quoi.
Ses bottes aux pieds, José sème tomates, poivrons quelques mètres plus loin.
Donc là, les 15-20 degrés annoncés.
C'est royal. La météo, ça va donner un coup de boost, là. Ça pousse à une force, c'est incroyable. On a une dizaine de jours d'avance.
C'est la chaleur, il n'y a pas eu vraiment de froid. Hein.
Rajoute Daniel, voisin de potager, inquiet face aux températures anormalement élevées, s'il fait trop chaud.
Il n'aura pas le temps de pousser correctement que tout va mourir. Hein.
Obligé de s'adapter face au changement climatique, mais sans renoncer.
Voir la nature pousser et le manger, il n'y a rien de tel.
Tellement passionné qu'il donne rendez-vous dans 3 mois.
On va se mettre sur les tables, là-bas, puis on cassera la croûte. Hein. Les salades seront pousser, il n'y a peut-être pas encore de tomates.
Car ici, ce qu'on cultive, c'est avant tout le partage.
Et puis le quintet, c'est à Cagnes-sur-Mer.
À 13h55, et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est l'As Prince de Montfort. L'outsider, c'est le numéro 14, Wimagaté.
Oui, Magaté, c'était le journal des Lys d'Anjan. Il est 7h37. On part dans les Alpes de Haute-Provence à Anneau. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Héloïse, vous êtes boulangère et vous vouliez nous dire que vous avez réussi à arrêter la drogue, mais vous étiez tombée dedans. Hein.
Oui, je suis tombée dedans comme on tombe en religion, si je peux m'exprimer ainsi.
À ce point-là, c'est-à-dire, en fait, donc vous l'avez l'information, hein, ce matin, on le disait, l'explosion de la consommation de drogue en France, et en particulier de l'ecstasy et de la MDMA. Mais dites-nous alors ce qui s'est passé, vous, Héloïse.
Ben, en fait, quand j'étais jeune, on m'a fait goûter, et j'ai aimé, et je devais avoir 13 ans. Et depuis mes 13 ans, ben, j'ai pas arrêté jusqu'à à peu près mes 50 ans. Mais pas arrêté du tout.
Pas arrêté du tout.
Quand je déménageais, la seule chose qui comptait, c'était de savoir où j'allais pouvoir me fournir. Quoi. Chaque fois que j'ai déménagé, que ce soit Paris, j'ai vécu au Maghreb aussi un petit peu. Enfin, partout où j'ai été, là, ma seule obsession, c'était de savoir comment j'allais faire. Et je pouvais faire... par exemple, là, j'habite à Nantes, il faut que je traverse toutes les montagnes. Il fallait que je traverse toutes les montagnes pour aller jusqu'à Nice. Pour aller. C'est une obsession.
C'était une obsession. Vous preniez quoi?
Alors j'ai pris shit, beaucoup, et ouais. Coke. Et puis plus ça allait, avant c'était 90 ou 100 euros le gramme, il y a 30 ans. Ouais. Maintenant le gramme il est à 40 euros, au moulin il est à 40 euros. Mais vous pouvez prendre des toutes petites capsules à 10 euros, à 20 euros, à 40 euros.
Donc en plus il n'y avait plus la barrière à ce moment-là, effectivement de l'argent. Héloïse, vous êtes boulangère, vous avez quand même toujours réussi à continuer à travailler? Ou est-ce que parfois ça a été compliqué?
Non. Par contre, j'ai toujours réussi à aller travailler. Mais des petits boulots. Avant, je travaillais dans les bureaux. J'étais chargée de clientèle. J'étais directrice. Enfin, je m'occupais de tout ce qui était sur la base ISO 9002 à l'époque. Je parle de ça il y a 25 ans.
Ouais.
Et puis là, j'ai pas tenu le rythme. Parce qu'il faut aller en présentation client, il faut les machins. Donc, je n'ai fait que régresser au niveau...
Et ça, vous pensez que c'est la drogue?
Oui. Oui, absolument.
Vous m'avez dit que vous aviez arrêté depuis 2 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui, Héloïse?
52,
donc vous avez arrêté à 50 ans. Qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté et est-ce que vous y arrivez là? Comment vous faites pour tenir?
Pourquoi j'ai arrêté à 50 ans? Parce que 50 ans, encore aller dans les cités pour aller chercher sa cam. Enfin, je veux dire, c'est à un moment, je me suis regardée dans un gars, j'ai trouvé que c'était pitoyable. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Et qu'il fallait vraiment que j'arrête. Alors, comme un pansement qu'on enlève, comme je disais au monsieur, j'ai regardé le dernier bout de shit. Voilà, j'ai posé le dernier bout de shit et je suis partie. Et j'ai laissé ma vie derrière moi à ce moment-là. J'ai quitté mon mari, j'ai quitté la drogue, j'ai quitté tout.
Vous avez quitté tout. Donc, en fait, quand vous dites rentrer en religion ou sortir, effectivement, il y a ce côté total. Aujourd'hui, vous le regrettez pas?
Ah, je regrette parce que j'ai 4 enfants. Donc les 3 derniers, nickel. Mais la première, elle a 31 ans maintenant. J'ai honte de le dire, mais j'ai vraiment pas été une bonne mère avec elle. Enfin, pas une bonne mère, je l'ai pas battue ou ce genre de choses. Mais j'étais dans la négligence, quoi. Non,
c'est dur. C'est dur. Ouais. Courage, ouais, tenez bon.
Ouais, je lis tous les jours.
J'imagine, Héloïse. En tout cas, on est là. Merci d'avoir témoigné ce matin. N'hésitez pas à nous rappeler. Justement, quand vous avez besoin de parler, on est là aussi. On est là aussi pour vous écouter et entendre ce témoignage et le partager avec tous les Français ce matin, qui effectivement, comme vous dites, à un moment, on m'en a présenté et voilà la bascule. Et à 50 ans, finalement, vous avez réussi à y mettre fin, mais avec quelques regrets. Merci en tout cas, Héloïse, d'avoir témoigné. Bon courage à vous. On est là, 7h41.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le vote solennel sur la fin de vie, ça pourrait être dès aujourd'hui ou au plus tard demain. Bonjour Jonathan Denis.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Un amendement adopté à une voix près permet finalement à nouveau aux patients de déléguer l'administration de la substance létale à un soignant. Ça fait débat. Vous nous le dites dans un instant. Est-ce que à vos yeux, ce texte est toujours équilibré? Vous nous répondez et n'hésitez pas, vous aussi, au 32-16 à venir interpeller Jonathan Denis. Il est 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h45 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story à la télé. Le vote solennel à l'Assemblée nationale sur le texte relatif aux soins palliatifs et à la fin de vie aura lieu soit aujourd'hui ou au plus tard demain. Ça y est, c'est le jour J. Bonjour Jonathan Denis. Bonjour. Vous êtes le président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Un amendement adopté à une voix près hier et on le sent bien, c'est extrêmement tendu juste avant ce vote solennel. Un amendement qui permet désormais à nouveau aux patients de déléguer l'administration de la substance létale à un soignant.
soignants. La question c'est, est-ce que c'est de l'euthanasie, est-ce que c'est du suicide assisté ou est-ce que désormais ce sont les deux? Est-ce qu'à vos yeux ce texte est toujours équilibré?
Alors je vais vous répondre sur l'équilibre du texte, mais vous avez soulevé un point important. Vous avez dit le vote aura lieu aujourd'hui ou demain. Il faut regarder les choses en face. On fait face à une obstruction parlementaire inadmissible de la droite parlementaire et de l'extrême droite. Quand vous regardez ces milliers d'amendements et ces discussions qui ont duré jusqu'à hier minuit, ces amendements n'ont pas pour but d'améliorer le texte ou de restreindre le texte. Ils ont pour but d'empêcher un vote. Ils ont pour but tout simplement d'empêcher un nouveau droit aux Français de disposer d'eux-mêmes face à la maladie et face aux souffrances insupportables. Vous me posez la question sur l'équilibre du texte. Nous sommes sur un texte totalement équilibré. Pour vous répondre très précisément, moi j'assume les mots. On parle d'aide à mourir, d'aide active à mourir. L'auto-administration de la substance létale, ça s'appelle le suicide assisté. L'administration par un médecin ou par un infirmier, ça s'appelle l'euthanasie. Dans ce texte, aujourd'hui tel qu'il est présenté, effectivement, les deux seront possibles. Ça s'appelle la liberté de choix du soigné, mais il y aura également, évidemment, la liberté de conscience du soignant dans ce texte. L'un ne peut pas aller sans l'autre.
Alors, les opposants, et effectivement, c'est vrai qu'ils sont nombreux aujourd'hui, j'ai l'impression presque davantage qu'au début de ce débat, ils disent qu'il y a une forme de dérive désormais, et certains soignants disent « moi, je n'ai pas choisi ce métier ». Pour administrer la mort.
Mais je rassure tous ces soignants qui sont opposés. Rien ne les obligera demain à devoir accompagner dans le cadre d'une aide active à mourir. Il faut bien comprendre que c'est une liberté, c'est un nouveau droit. Ce n'est pas une obligation comme dans toutes les questions de société qui ont pu être traitées et ces nouveaux droits qui ont pu être ouverts. Je pense à la question de l'IVG, je pense à la question du mariage pour tous. On n'a obligé personne. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que nous parlons de personnes qui sont atteintes de maladies graves et incurables avec un engagement du pronostic vital à un stade avancés au terminal, qui ont des souffrances qui leur sont insupportables ou qui sont réfractaires et qu'ils doivent manifester leur volonté de façon libre et éclairée. On parle bien de ça. Aujourd'hui, comment on peut les accompagner ? La Convention citoyenne a rendu son avis il y a maintenant 3 ans. Elle a dit une chose simple que nous disons finalement en majorité depuis des années. La loi Claeys-Leonetti permet de répondre à certains cas quand l'engagement de votre pronostic vital est à quelques heures, quelques jours. Que fait-on pour toutes ces autres personnes qui ne souhaitent pas vivre la phase agonique ? Aujourd'hui, elles sont abandonnées, elles demandent ce nouveau droit. Il serait temps que ce nouveau droit soit ouvert puisqu'on en discute depuis quand même 1978.
On en discute effectivement depuis très longtemps, mais enfin, c'est pas une question banale, la question effectivement de la mort au fond. Il y a face à vous notamment Philippe Juvin qui monte au créneau, qui est à la fois député et médecin. Lui, il dit attention, désormais c'est surtout les riches, alors sauf à des cas évidemment de maladies, la maladie de Charcot en particulier, mais il dit au fond les riches auront les moyens de soulager leurs souffrances, ils auront les moyens d'avoir des soins à domicile. Il dit le problème c'est pour les plus modestes qui eux au fond auront de moins en moins accès à des soins de qualité et pour qui l'accès à la mort sera au fond un soulagement. Qu'est-ce que vous lui dites?
Alors c'est pas parce que monsieur Juvin est médecin qu'il dit beaucoup de vérité. Faut pas oublier que quand je vous parle d'obstruction parlementaire, il y a quand même que 8% des Français qui sont opposés à cette loi. Donc on les entend effectivement de plus en plus, mais ils ne sont absolument pas majoritaires, ils sont ultra minoritaires. Maintenant, monsieur Juvin se trompe, je me demande parfois dans quel monde il vit. Aujourd'hui, les riches, ils ont déjà accès à l'aide active à mourir. Ils vont en Suisse quand ça coûte 12 000 euros. Ce n'est pas les pauvres qui y vont. Quand ils nous parlent, par exemple, dans l'Oregon, où dans l'Oregon, ce seraient les plus pauvres qui auraient accès, mais qu'ils se renseignent sur la loi américaine, ce ne sont pas les plus pauvres qui ont accès, ce sont des personnes âgées qui sont généralement les plus riches puisqu'elles ont une couverture médicale. Donc non, cette loi du droit à mourir dans la dignité, elle ne va pas en contradiction avec le droit à vivre dans la dignité, le droit
vous
à être accompagné selon ses volontés.
Ce sera pour une petite minorité, oui. Pour ceux qui ont vraiment besoin. Quand vous regardez les chiffres au Canada par exemple, oui. Où désormais 8% des morts sont morts de l'euthanasie.
Oui.
Est-ce que ça ne vous paraît pas inquiétant?
Mais ça pourrait être 15%, 20%, ça répond à quoi? On est en train de parler de personnes qui vont mourir. On n'est pas en train de parler de tuer des personnes âgées ou des personnes qui seraient avec une dépression suite à un chagrin d'amour. On parle de personnes qui vont mourir. Donc oui, on sait bien que ça concernera 2 à 3% des décès. Il faut le ramener aussi au nombre de décès. Mais il suffirait d'une seule personne qui demanderait à être accompagnée
dans
le cadre
de l'accès. Mais le Canada disait que ce sera 2 à 3%. C'est finalement aujourd'hui 8.
Mais je vous dis, demain, ça pourrait être 10. En quoi ce serait choquant? On parle de personnes qui vont mourir et qui ne trouvent pas de réponse aujourd'hui. Voilà, dans cet accompagnement, on parle de maladies incurables, graves et incurables, avec des souffrances réfractaires. Vous savez, je pense que M. Juvin, en tant que médecin, mais veut tout simplement pouvoir garder un pouvoir, ce pouvoir de décision, ce paternalisme médical qu'on nous sert depuis des années. Et il y a un autre pouvoir qui est très présent, on le voit dans les amendements qui sont présentés par la droite et l'extrême droite, c'est le pouvoir religieux. C'est vraiment cette interdiction aux Français de disposer d'eux-mêmes. Ils ne seraient pas assez malins, assez intelligents pour comprendre un texte ou pour savoir ce qu'eux-mêmes décident face à la maladie ou aux souffrances. Je ne les juge pas, ne les jugeons pas et acceptons d'entendre cette parole même face à la maladie.
Jonathan Denis, vous êtes le président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité et évidemment extrêmement favorable, on l'a bien entendu, à ce texte. La réponse, ce sera aujourd'hui ou plus vraisemblablement demain avec le vote solennel à l'Assemblée nationale. Il est 7h51 et la voix de gauche est entrée dans ce studio. Salut Cécile Duflo.
Bonjour Apolline.
Cécile, on parle de l'affaire, on parle et on reparle de l'affaire Epstein. Vous réclamez un grand nettoyage.
Oui, il faut une enquête et une enquête jusqu'au fond parce que pour l'instant, les complotistes se régalent.
Merci, vous nous le dites dans un instant, 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche qui veut faire le grand nettoyage avec l'affaire Epstein. Mais d'abord, le bonus, Mathieu. On écoute un peu de Daft Punk ce matin.
Ouais, déjà pour se faire plaisir, bah, Pauline. Déjà, ouais. Mais aussi parce qu'on va retrouver la moitié du duo. Thomas Bangalter, un des deux génies casqués du groupe électro, séparé depuis 2021. Thomas Bangalter va travailler avec l'artiste JR. Vous savez, c'est cet artiste qui transforme des espaces publics en galeries, en collant des visages géants sur les murs, notamment. Eh bien, JR a fait appel à la moitié des Daft Punk pour son projet d'emballement du Pont Neuf à Paris. Hommage à l'empaquetage des artistes Christo et Jeanne-Claude il y a 40 ans. Du 6 au 28 juin prochain, en fait, le plus ancien pont de la capitale se transformera en immense caverne, 120 mètres de long, 20 de large. Thomas Bangalter est invité à imaginer la sonorisation de la grotte comme, je cite, une étoffe acoustique unique, sans pour autant que ce soit de la musique. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. Le projet, c'est 800 personnes mobilisées. Rendez-vous au mois de juin prochain.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est mardi, et le mardi, c'est la gauche. Cécile Duflo, 5 jours après l'ex-prince, comme on dit, Andrew, c'est Lord Peter Mandelson, ancien ministre britannique, ancien ambassadeur, qui a donc été arrêté hier soir pour être interrogé dans l'affaire Epstein. Pour vous, Cécile, c'est une affaire qui devrait être prioritaire pour nos démocraties et il faut un grand nettoyage.
Oui, c'est une attaque contre nos démocraties parce que vraiment, le niveau à la fois de dégueulasserie et ce sentiment que des élites mondialisées se connaissent et se protègent depuis des années, ça donne un sentiment, une impression désastreuse. On sait ce qui fait le lit du complotisme et du rejet des dirigeants, c'est ils sont tous pourris et ils se protègent tous. Et honnêtement, quand on regarde les bribes, pour l'instant, des dossiers Epstein qui sortent, ça donne cette impression-là, ça donne du grain à moudre, toutes ces photos à la fois de puissants et d'agressions sexuelles, c'est écœurant. Donc il faut absolument que la justice et les journalistes fassent leur travail jusqu'au fond pour nettoyer les écuries d'OGS.
Alors côté justice, c'est vrai que finalement il y a assez peu d'enquêtes. On se souvient même de la déclaration d'Emmanuel Macron qui disait non, mais tout ça c'est une affaire américaine.
Oui, ça, il avait dit ça concerne prioritairement les États-Unis. Non, Epstein a un domicile en France depuis 2001, ça fait près 25 ans, 24 ans d'agression et de sans doute de complicité et aussi probablement de victimes. Donc, et qui ont sans doute évidemment eu le sentiment de ne pas être écoutés. Donc la justice avait été saisie en 2019, il ne s'était pas passé grand-chose. Il faut comprendre à la fois pourquoi l'enquête n'a pas prospéré à cette époque, et là il faut que l'enquête, que les moyens soient mis et qu'elle aille jusqu'au bout, qu'on déterre absolument tout ce qu'il y a à savoir sur cette affaire, qu'on ne laisse pas le sentiment que des gens sont protégés.
En fait, qu'on ne laisse pas le doute, que l'on enquête, que l'on travaille, que l'on revienne aux faits. Cécile, vous voyez aussi un lien entre l'affaire Epstein et l'affaire Pellico.
Oui, la France a été secouée il y a quelques mois par l'affaire Pellico. Et là aussi, c'était une affaire de violence sexuelle massive commise par des hommes. Mais là où les agresseurs de Gisèle Pellico étaient monsieur tout le monde, aujourd'hui, ce sont des puissants qui sont liés à la fois par des intérêts d'affaires autant que par l'exploitation de jeunes filles, voire de mineurs. Et ce qui se passe là, c'est le miroir grossissant de toutes les inégalités. Violenter des jeunes filles pauvres et vulnérables en se garantissant l'impunité par l'argent, parce que c'est exactement le projet et ce qu'a fait Epstein pendant des années. D'ailleurs, l'activité principale d'Epstein, c'était le conseil entre guillemets financier, et notamment sa capacité à échapper, à trouver des montages pour échapper échapper à l'impôt. Donc ce système absolument dégueulasse et écœurant, il faut y mettre fin parce qu'il interroge la capacité de résistance de nos démocraties. Parce que, et le seul moyen d'y répondre, c'est la justice la plus droite et la plus inflexible, celle qui peut donner aux jeunes filles vulnérables l'impression que leur parole, leur vie vaut davantage que celle des puissants. C'est ça la démocratie, c'est ça la justice, on en a besoin absolument et urgemment.
Cécile Duflo, la voix de gauche, demain ce sera la voix de droite. Dans un instant, la météo et le journal de 8h à la une du journal. Cet adolescent de 15 ans, poignardé à la sortie de son lycée près de Lyon, l'agresseur est toujours en fuite et l'adolescent est entre la vie et la mort. On fera un point complet aussi sur la météo avec Géraldine Nemory. Il y aura du soleil et de la douceur aujourd'hui et ça fait si longtemps qu'on l'attend. Juste après le journal, ce sera l'économie avec vous, Emmanuel Le Chip. On passe au garage ?
Oui, les garagistes qui font moins de réparations, mais ça nous coûte un peu plus cher.
Vous nous le dites dans un instant, il est
7h57. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.